Le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. En Chine, des milliers de personnes ont manifesté hier à Wuhan après la mort d'un médecin de 34 ans, le docteur Li Wangliang, décédé des suites de l'épidémie de coronavirus. Il avait été sanctionné par les autorités chinoises pour avoir alerté sur la maladie. La crise sanitaire devient une crise politique, nous dira notre correspondant à Pékin, Stéphane Pambrin.
L'Irlande vote aujourd'hui pour des élections législatives une semaine après le Brexit.
Le Premier ministre Leo Varadkar joue son avenir à la suite d'une campagne où les questions intérieures ont finalement pris le pas sur les questions extérieures, campagne sur les questions sociales et sur la santé également, nous dira Antoine Gignoux.
La commission spéciale sur les retraites siégera tout ce week-end pour examiner les amendements dont 19 000 ont été déposés par la France insoumise.
Et puis nous entendrons la voix de Pierre Guyotat, l'un des grands noms de la littérature française, décédé hier à l'âge de 80 ans, honoré par le prix Médicis en 2018 pour son œuvre Idiotie, dans laquelle il revenait sur son parcours marqué par la guerre d'Algérie. Puis votre invitée, Caroline.
Justement, on pourra lui demander ce qu'il a pensé de ce livre sur la guerre d'Algérie, tombeau pour 500 000 soldats. L'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'histoire du Maghreb, est avec nous. Nous allons parler de l'Algérie après Bouteflika.
Des milliers de Chinois dans les rues à Wuhan pour laisser éclater leur colère hier après la mort d'un médecin chinois âgé de 34 ans, décédé du coronavirus. Il avait été sanctionné par Pékin pour avoir tenté d'alerter sur l'épidémie, alors qu'on atteint maintenant 722 morts et près de 35 000 personnes contaminées selon les chiffres des autorités chinoises. À Pékin, les précisions de Stéphane Pambrin.
Pendant de longues minutes dans la nuit de Wuhan, des milliers de personnes ont crié le nom de Li Wenliang. Le docteur Li, médecin martyr, qui avait mis en garde dès le 30 décembre sur l'importance de cette épidémie. Mort du coronavirus dans un hôpital de Wuhan, il est devenu le symbole de cette crise sanitaire, devenue une crise politique en Chine. Sur Internet, des messages rapidement effacés par la censure mettent en cause le gouvernement. « Nous savons qui est responsable », lance un internaute. « Nous pleurons le docteur Li, mais c'est aussi nous que nous pleurons », écrit un autre. Une véritable onde de choc envahit le pays car désormais l'épidémie a un visage, celui de ce médecin de 34 ans et de toute sa famille, elle aussi malade. Le message de sa mère qui remercie les Chinois pour leur soutien est relayé par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir, explique-t-elle dans un sanglot. Cette fois, la censure a bien du mal à étouffer la douleur des Chinois, de plus en plus inquiets par l'ampleur que prend cette épidémie. Le gouvernement a dépêché d'urgence plusieurs cadres du Parti communiste pour diligenter une enquête et tenter, du moins officiellement, de comprendre pourquoi le docteur Li n'a jamais été écouté.
Stéphane Pambrin à Pékin pour France Culture. On apprend ce matin qu'un ressortissant américain se trouvant à Wuhan, ville épicentre de l'épidémie, est mort des suites de la maladie, annonce ce matin un porte-parole de l'ambassade des États-Unis. Les États-Unis qui envoient 17 tonnes d'aide pour les hôpitaux chinois. Alors que dans le reste du monde, plus de 300 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine d'États et de territoires, dont deux cas mortels à Hong Kong et aux Philippines. Des milliers de touristes présents dans trois paquebots sont bloqués actuellement en Asie, après que le virus a été détecté à leur bord. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Irlande et c'est un vote qui pourrait rebattre les cartes. Une semaine après le Brexit, les élections législatives anticipées ont lieu aujourd'hui en République d'Irlande. Leo Varadkar, le chef du gouvernement sortant, est en chute libre dans les sondages, notamment chez les 25-35 ans. La génération qui a connu la crise économique et 10 ans d'austérité l'accuse d'avoir sauvé les banques en sacrifiant le secteur de la santé et du logement. Antoine Gignoux.
Avec une hausse de plus de 5,5% du PIB l'an dernier, des mesures progressistes comme le référendum sur l'avortement, la légalisation du mariage gay et une position ferme dans les négociations sur le Brexit, Leo Varadkar n'imaginait pas une campagne si difficile. Mais si le chef du gouvernement, comme les candidats de son parti, le Fine Gael, garde dans les sondages le soutien des milieux d'affaires, il a clairement perdu l'adhésion des familles les moins favorisées. Le gouvernement n'a pas construit suffisamment de logements, les loyers explosent, avec des deux pièces à plus de 1300 euros et plus de 10 000 SDF. Le système de santé, enfin, manque de docteurs, d'infirmières et de moyens. C'est sur ces difficultés que le Sinn Féin a construit sa campagne. L'ancienne vitrine politique de l'IRA, selon un sondage Ipsos, est en tête des intentions de vote à 25%, insuffisant pour gouverner seul, mais le parti qui prône la réunification de l'île pourrait, pour la première fois depuis un siècle, rentrer au gouvernement.
Antoine Gignoux.
En Russie, l'opposition à Vladimir Poutine manifeste ce matin à Moscou contre les projets de modification institutionnelle récemment annoncés par le Kremlin.
Des manifestations d'activistes qui brandissent quelques pancartes sans défilé, mais qui n'empêcheront pas sans doute les interpellations. De semblables manifestations statiques cet été avaient entraîné plus de 3000 interpellations et le nombre d'incarcérations pour motifs politiques s'est littéralement envolé depuis un an, Eric Bigala.
2019 aura été une année particulièrement difficile pour les activistes et autres défenseurs des droits en Russie, au point que les associations décomptent 50% de prisonniers politiques en plus en un an. Svetlana Shemleva de l'ONG Moscovite École d'éducation civique.
Aujourd'hui, donc, il y a plus de 300 personnes qui ont considéré comme les prisonniers politiques en Russie. L'année dernière, c'était moins de 200 personnes. Parmi ces 312 personnes, il y a 250 personnes qui sont accusées pour leur appartenance religieuse. Il y a des témoins de Jéhovah et aussi une grande organisation de Tatars de Crimée.
Et puis il y a simplement les activistes qui n'ont rien fait d'autre que de participer aux manifestations tous les samedis en juillet-août dernier, les manifestations dénonçant les manipulations avant les élections municipales de Moscou. Comme l'explique l'avocate Maria Eismont, au-delà de 3 interpellations, les peines prononcées deviennent vite très lourdes.
4e fois, tu risques une affaire criminelle. Mon défendant, Konstantin Kotov, a fait justement ça. Il n'a rien fait, seulement marché dans les rues piétonnes et finalement, on l'a arrêté. Il a été condamné à 4 ans de prison.
11 autres manifestants interpellés cet été dans des manifestations du même type ont été condamnés à des peines de plus d'1 an de prison ferme.
France Culture 8h07, suite du journal. Contre la réforme des retraites, les avocats ont voté hier pour continuer leur mouvement de grève et d'action. Ils entament ainsi une 6e semaine de mobilisation.
Et oui, malgré les propositions formulées par le gouvernement cette semaine envers les avocats, le Conseil national des barreaux réclame toujours l'abandon de la réforme. À la RATP, ce sont désormais 4 syndicats qui appellent à une journée morte dans les transports d'Île-de-France le lundi 17 février, le jour où le texte doit arriver dans l'hémicycle pour être débattu. En attendant, le week-end sera studieux pour les députés et membres du gouvernement qui participent à la commission spéciale sur les retraites. Quelques 22 000 amendements ont été déposés sur ce projet de loi. Lundi après-midi, à l'ouverture des travaux, dont 19 000 par la seule France Insoumise. Au rythme de 50 à 60 amendements examinés par heure, il sera difficile de travailler sur l'ensemble du texte avant que les travaux ne s'interrompent en milieu de semaine prochaine. Analyse avec Pierre Neveu.
C'est une bataille parlementaire à la fois technique, tactique et médiatique. À raison d'une minute de temps de parole par amendement examiné, les échanges deviennent parfois compliqués.
Madame la Présidente, s'il vous plaît, je voudrais savoir comment s'organisent les choses, parce que on voit bien que nous n'avons pas le temps d'expliquer ce que nous avons à expliquer.
Éric Woerth, le président de la Commission des Finances à l'Assemblée, pilote les réflexions pour les Républicains. Alors à force de débattre à la virgule près, il arrive parfois que des voix se rejoignent pour contester cette réforme, comme lorsque le député La France Insoumise, Adrien Quatennens, salue la ligne de conduite des Républicains sur la question de l'âge d'équilibre.
La droite républicaine, elle est pour une mesure d'âge et elle le dit. C'est un point de désaccord fondamental entre nous, tout le monde l'aura compris, mais au moins elle dit la vérité aux Français sur ce qu'elle souhaite et sur le paramètre sur lequel elle souhaite jouer. Vous, vous masquez les choses, vous en fait, vous êtes tout simplement des gens de droite maquillés en progressistes, assumez ce que vous faites.
Et si la France Insoumise a décidé de ralentir le travail de la Commission, c'est pour permettre à la contestation de continuer dans la rue, estime le politologue Benjamin Morel.
Ça peut avoir un sens politique dès le moment où vous pensez que faire perdre du temps peut permettre d'inverser le rapport de force. Le grand exemple historique, c'est la loi Savary. Lors des débats sur la loi Savary, vous avez le Sénat à l'époque qui fait de l'obstruction, ce qui permet à la contestation de monter, et la loi qui serait peut-être passée sans justement ce temps perdu au Sénat, eh bien finalement, va être retirée par François Mitterrand.
Les travaux de la Commission devraient s'interrompre mercredi soir pour laisser le temps aux députés de préparer de nouveaux amendements. Le texte arrivant en séance le 17 février prochain.
Pierre Neveu, c'est une situation inquiétante. Près d'un million de jeunes en France sont exclus à la fois de l'emploi, de la formation et du travail. C'est ce qu'a dénombré la DARES, la direction statistique du ministère du Travail. Un rapport que s'est procuré Catherine Pétillon.
960 000 jeunes, soit près de 13% des 16-25 ans, ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. La statistique publique les regroupe sous l'acronyme anglophone de NEET. La DARES s'est penchée sur leur profil et leur parcours, et le premier enseignement de cette analyse, c'est la diversité des situations que l'on retrouve sous cette catégorie. Elle regroupe en effet des jeunes qui viennent tout juste de finir leurs études, ce qui explique d'ailleurs une hausse des chiffres quand arrive la fin de l'année scolaire et l'été, mais aussi des personnes dans cette situation depuis plus d'un an, cela représente plus de la moitié des cas. Sans surprise, ce sont les moins diplômés, des jeunes vivant sans leurs parents ou ayant eux-mêmes des enfants. Benjamin Nefusi est le sous-directeur de la DARES.
On sait que c'est une population qui est vulnérable, qui est en transition, sur laquelle il y a un déploiement de politiques pour essayer de les aider à sortir de cette situation. Et en les étudiant en particulier, on se rend compte que toutes les solutions ne sont pas bonnes pour les mêmes profils. Par exemple, la moitié d'entre eux cherchent un emploi. Ceux-là sont en contact de missions locales, d'associations d'insertion, de Pôle emploi. Donc eux sont dans une démarche d'insertion professionnelle. Et vous en avez une autre moitié à peu près qui n'est pas en situation où elle peut rechercher un emploi ou elle ne souhaite pas retrouver un emploi. Et là, les motifs sont d'ordre différent. C'est des problèmes de santé, des problèmes de charge d'enfants ou bien de personnes âgées, parents, grands-parents, ou des problèmes de découragement vis-à-vis du marché du travail avec l'idée qu'ils n'arriveront pas à retrouver l'emploi.
Les jeunes avec le plus de difficultés socio-économiques et restant le plus longtemps sans emploi, études ou ni formation sont aussi ceux qui ont le moins de contact avec les services publics de l'emploi.
Catherine Pétillon, des chercheurs ont manifesté hier devant la Sorbonne à Paris, des doctorants, des étudiants aussi pour rappeler la précarité déjà existante dans le milieu universitaire et surtout Céline Autin pour s'opposer à la prochaine loi de programmation de la recherche qui entend réorganiser l'enseignement supérieur.
Côte à côte, des chercheurs, étudiants et doctorants avec des masques blancs et des feuilles vierges. Image forte d'une recherche qu'ils disent vidée de ses idées et standardisée. La faute à un manque cruel de moyens. Johanna Siméon, professeure à l'ENS.
Vous travaillez sur un pays d'Amérique latine, vous travaillez sur la Chine, il faut payer des billets d'avion. Et vous êtes parfois dans des labos où il y a 60 chercheurs et il y a quelques dizaines de milliers d'euros pour payer les déplacements, les billets d'avion, l'hébergement, les interprètes, la transcription d'entretien et ainsi de suite. Donc c'est pas possible. Les jeunes maîtres de gonfle, les jeunes chargés de recherche passent leur temps, non pas à chercher, mais à remplir des appels à projets pour avoir l'argent.
Une course épuisante au montage de projets et à la concurrence entre les chercheurs que va amplifier la future loi de programmation. C'est en tout cas ce que craint Julien Fretel, enseignant-chercheur à la Sorbonne et co-organisateur du rassemblement.
On va vers des évolutions qui vont d'abord mettre en concurrence les universités, qui vont sans arrêt récompenser ceux qui ont des médailles, ceux qui sont dans l'excellence, donc des établissements qui sont très différents des nôtres. Nous, on est une université de masse. Donc je pense qu'on est dans une régression au nom d'une modernité qui n'est pas une modernité telle que nous, on la souhaite, c'est-à-dire une modernité qui met vraiment l'accent sur le corps de notre métier, c'est rechercher, former et produire de la connaissance.
Fort de leurs centaines de revues scientifiques en grève et laboratoires de recherche mobilisés, les manifestants donne rendez-vous le 5 mars pour un blocage des universités.
Céline Autin, et la future loi de programmation devrait être présentée au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, puis devant le Conseil d'État à la fin du mois de mars. Il était l'un des grands noms de la littérature française. Pierre Guyotat est décédé hier à l'âge de 80 ans. Inventif, révolté, en 1970, son livre Éden, Éden, Éden avait été jugé pornographique par les autorités de l'époque. C'est finalement 48 ans plus tard, en 2018, qu'il a reçu le prix Médicis pour Idiotie, dans lequel il revenait notamment sur son parcours marqué par la guerre d'Algérie. Marie Richeux l'avait reçu sur France Culture dans Par les temps qui courent. Pierre Guyotat.
À cette question qu'on vous pose tout le temps. Pourquoi vous écrivez? Pourquoi vous faites de l'art, etc. Mais en fait, on fait de l'art parce que il faut de la beauté, tout simplement. Il faut quand même pas oublier la beauté. On fait de l'art aussi pour... on fait de l'art dans une tradition artistique. Ne serait-ce que pour la, pour le bousculer, si vous voulez. C'est du désordre ajouté au désordre du monde aussi, parce que l'art, c'est pas commode, c'est pas facile. Quand vous voyez même des dessins de la croix ou des peintures de la croix, vous comprenez tout de suite que l'art, c'est du désordre. De la tempête, du tourment, de la violence, si vous voulez. Immédiatement. Mais c'est de la beauté. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la beauté? C'est encore une autre question. Si vous voulez. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. C'est que l'art reste tout de même l'expression de la beauté.
Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste notamment de la guerre d'Algérie. Pierre Guyotat, c'était une voix importante, un témoin important de cette période?
Son livre « Tombeau pour 500 000 soldats » est le premier grand roman sur la guerre d'Algérie. Dans les années 60, il y en aura d'autres, hein, comme celui par exemple de Philippe Labrou, comme « Des feux mal éteints » ou « Élise ou la vraie vie » de Claire Etcherelli ou de Claude Bonjean, « Lucien chez les barbares ». Ce sont des livres qu'on connaît mal dans la société littéraire et intellectuelle française. Et on, tout le temps, on explique qu'il n'y a rien, qu'on ne savait pas, qu'on n'a pas suffisamment écrit ou montré la guerre d'Algérie. Eh bien, Pierre Guyotat a précisément montré l'inverse. Il a montré le traumatisme de cette guerre parmi les jeunes appelés, la violence extraordinaire et la cruauté de cette guerre, et sa voix, comme celle de beaucoup d'autres, n'a malheureusement pas été suffisamment entendue dans les années 60-70. C'est un très grand roman qu'il faut redécouvrir aujourd'hui.
Merci beaucoup Benjamin Storr, vous restez avec nous bien sûr pour votre interview juste après ce journal. Et la disparition de Pierre Guillotat, son œuvre et des entretiens aussi réalisés tout au long de ces années sur France Culture sont à retrouver en ligne dans un dossier complet sur franceculture.fr. De la pluie du nord au Pays de la Loire, aujourd'hui du brouillard sur l'Alsace, des nuages sur l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône le matin, des averses annoncées pour cet après-midi, un temps sec et alternant entre soleil et nuages pour l'après-midi dominera l'est du pays, plus de soleil sur le centre. Les températures sont comprises entre 1 et 12 degrés, 1 degré à Strasbourg, 5 degrés à Lyon, 8 à Paris, 10 à Marseille et à Nice, maximum 12 degrés, ce sera pour Biarritz.